When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, entrega, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Dans ce 9e épisode, je rencontre Anne Solange. Il y a quelques mois de cela, je découvrais son parcours de combattante pour avoir un enfant à travers son blog Cachemire et Soie. Alors que je lui proposais d'enregistrer un épisode dédié à ce sujet, Anne Solange me dévoilait alors son plus grand secret. Après des années de galère pour tomber enceinte, elle venait d'apprendre qu'elle allait devenir maman. Aussi, par prudence et pour préserver son intimité, nous avons préféré décaler l'interview le temps de s'assurer que tout allait bien jusqu'aux 3 mois de grossesse officielle. Tout ne s'est malheureusement pas déroulé comme prévu et l'épisode d'aujourd'hui qu'Anne Solange a souhaité maintenir prend donc une toute autre tournure. Avec Anne Solange, on parle de son combat pour avoir un enfant, des premiers mois de sa grossesse et du dilemme terrible auquel elle a dû faire face. Bonne écoute. Bonjour Anne Solange, merci d'avoir accepté de témoigner dans Le Tourbillon.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu te souviens du moment où ton mari et toi avez souhaité devenir parents ? C'était il y a combien de temps ?
Alors nous, c'est il y a vraiment, ça a été en dents de scie en fait. Je pense qu'on a commencé, ça fait très longtemps qu'on se connaît avec mon mari, qu'on est mariés, ça fait plus de 15 ans qu'on est mariés. Et en fait, on a eu une période où finalement, je pense qu'on n'était pas tellement impatients d'avoir des enfants. On n'était pas, voilà, c'était pas notre priorité. Puis finalement, quand c'est devenu, quand on s'est dit allez hop, on se lance, on n'était pas non plus hyper enthousiaste quoi. Voilà, c'était. Voilà, et puis après avec mon mari, on a eu un moment de rupture, voilà, qui du coup a interrompu cette question-là. Et puis, par contre, quand on s'est remis ensemble un an et demi après, ça a été très clair tout de suite que c'était ça qu'on voulait.
Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu imaginer un instant que ça pouvait être le parcours du combattant pour devenir maman ?
En fait, je pense que... Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai toujours eu une inquiétude avec ça. Donc oui, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un enfant tout de suite, en fait. Déjà parce que, bah, tu vois, j'ai 40 ans, c'était il y a 5 ans, j'avais déjà 35 ans. Donc on avait bien répété que... Déjà, c'était tard, tu vois. Et pour moi, en plus, dans mon système de valeurs, je te dirais qu'avoir un enfant après 32 ans, c'était déjà trop tard. Donc, d'emblée, j'étais dans ce truc de... Ok, donc j'ai 35 ans, c'est hyper tard, c'est hyper urgent. Enfin, tu sais, tout de suite, pour moi, ça a été... ça a été réfléchi, ça a été calibré, tu vois, genre, j'ai pas eu ce moment de « Oh, on s'aime, c'est merveilleux, on fait un enfant, et tout ira bien, et on est insouciant. » Non, d'emblée, c'était « Ok, j'ai 35 ans, c'est hyper urgent, David, il en a 3 de plus que moi, 4 de plus que moi, 3 et demi. » Et tu vois, il y avait vraiment ce côté « Ok, c'est l'urgence, il faut, et, tu vois, il faut... » Donc ça a jamais été vraiment fun, en fait. Je dois dire que la partie conception, à aucun moment... Il y a toujours eu chez moi ce truc de « Ok, t'es jamais tombée enceinte par hasard. » Et pour autant, c'était très difficile pour moi d'aller... ce que d'autres couples peut-être auraient fait, ça aurait été d'aller d'emblée, tu vois, voir un médecin et régler les choses.
Faire des tests de fertilité.
Ouais, mais en fait, ça a été difficile vraiment pour tous les deux. Je vois qu'il y avait vraiment chez nous, l'un comme l'autre, on avait hyper ancré l'idée que... un vrai enfant, ça se faisait dans un lit, dans l'amour aussi, tu vois, genre vraiment. Il y a vraiment cette idée-là, et je pense que ça a été... Bah, aujourd'hui, c'est le truc que je regrette, je regrette rien, mais si je pouvais parler à la personne de 35 ans, je lui dirais, n'attends pas. Enfin, tu vois, on a passé du temps à... On a vraiment repoussé, puis moi, j'avais aussi peur, je sais pas, d'être jugée, qu'on entre... trop loin dans mon intimité.
Donc il y a le chat.
Si vous entendez les griffes, c'est le chat qui est très fâché de ne pas pouvoir être avec nous. Et donc ouais, j'avais aussi peur de ça. J'ai pas une très bonne expérience avec le monde médical en général. Et j'étais très repoussée par l'idée qu'on puisse entrer à cet endroit-là de mon intimité en quelque sorte. Voilà.
Et vous avez essayé pendant combien de temps ?
J'ai l'impression qu'on a bien attendu pas loin de 2 ans, tu vois. Quand même, c'est beaucoup en fait.
Et à quel moment, du coup, vous êtes dit on va aller faire des examens ?
À quel moment on a changé ? C'est que le temps passant, la pression monte quand même, tu vois, en quelque sorte. Il y a quand même ce truc de bon, bah quand même, le temps passe.
Oui, l'horloge tourne.
Je comprends. Ok, d'accord, on a manqué des cycles. Mais bon, entre temps aussi, il y a tout ce travail que tu fais de apprendre à mieux comprendre ton corps. Moi, ça a l'air con de dire ça, mais. En vrai, je réalise maintenant que je ne savais pas trop comment ça marchait, toute cette affaire-là. Et je ne m'étais jamais renseignée. Donc, il y a eu aussi toute cette période, tu vois, où on a appris à un peu mieux comprendre, où on a dû utiliser un peu des tests d'ovulation pendant un petit moment. Donc, on a fait tout ce truc-là. Donc, en fait, quand on est arrivé au bout de 2 ans, c'était parce qu'il y avait déjà pas mal de pression, que j'avais quand même une de mes très bonnes amies qui n'arrêtait pas de me dire « Va voir ce médecin, ça ne te coûte rien, tu vas voir, il est très gentil, il va pas te faire peur, il va pas juger rien, il va pas te dire que t'es trop vieille. » J'ai vraiment attendu, je pense, en gros, le moment où le stress, que les choses n'arrivent pas, il est plus fort que la perspective de voir un médecin s'immiscer dans cette partie-là.
Donc tu vois un médecin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors là, dans ce cas, c'était très classique. En fait, je pense que c'est ce qui se passe à peu près tout le temps. Du coup, on a dû faire des examens, alors lesquels je ne saurais plus te dire dans le détail. Mais moi, en gros, il n'y avait rien d'apparent, vraiment. Mon mari, finalement, non plus. Au début, on lui a dit qu'il y avait... moi, il y avait un truc. Je dis une bêtise. Je devais avoir des taux d'hormones qui étaient faibles. Donc j'ai dû prendre, j'imagine, quelque chose. Je ne sais plus trop au début, mais j'avais des hormones qui étaient un peu trop faibles. Un peu faiblarde, et David, au début, on lui a dit, ouais, en gros, ouais, vous n'avez pas des chevaux de course, tu vois, c'est un peu ce qu'il nous a dit, mais voilà, il n'y a pas de raison de vous inquiéter non plus, tu vois, il était assez rassurant, il n'y avait rien de dramatique, d'ailleurs, le traitement, je répondais plutôt pas trop mal, voilà, il y a eu ça, et tout de suite, il nous a proposé, d'abord pendant 1 an, une surveillance, simplement une surveillance, ça veut dire, on vérifiait... où il y avait peut-être quelques médicaments pour booster, vérifier qu'il y avait bien des ovocytes, machin, qui grandissaient comme on voulait, nanana. Donc on a commencé à faire ça. Et du coup, bah, c'était juste des échographies. Puis après, tu vois, t'avais jusque même au moment de l'ovulation, ça veut dire qu'il nous disait vraiment, là, il faut faire l'amour tel jour ou tel jour et jusqu'à tel jour parce que votre ovulation, elle va se déclencher exactement à tel moment. Ça, on a fait ça pendant 1 an. Ça n'a toujours rien donné. ensuite, on est passé aux inséminations artificielles. Où là, du coup, tu te rends à l'hôpital. Ton mari, lui, du coup, doit faire ce qu'on appelle un don. Mm-hmm. Où le sperme aussi est trié. Donc, du coup, ça permet d'avoir vraiment que les bons qui vont à l'assaut des ovocytes. Et puis là, on en a fait, je ne sais pas, 4 ou 5. 4, et ça n'a rien donné non plus. Et du coup, on est passé après au FIV, où on en a fait... et là, ça a été plus compliqué, parce qu'en fait, il s'est trouvé que je répondais pas bien, pour le coup, au traitement, qui est le même, mais l'objectif d'une FIV, c'est d'avoir le maximum d'ovocytes possible à bonne taille, à taille mature. Bon, ça veut dire qu'il y a eu aussi 2 tentatives de FIV, deux ou trois, je ne sais plus, qui n'ont pas pu aboutir, simplement parce que je n'avais pas fait assez d'ovocytes matures à ce moment-là. Donc voilà, je ne réponds pas très bien au traitement, mais bon, du coup, on a fait ça pendant, jusqu'à au mois de juillet, où enfin ça a marché. Et ça a marché, il y avait un embryon. Il y en avait un qui avait pris, quoi, voilà.
Et alors, comment tu as vécu, toi, le fait de devoir passer par la PMA, donc la procréation médicalement assistée ?
Je suis vraiment passée, je pense, par plein d'étapes différentes. Et je pense qu'au début, j'étais très confiante. Ça veut dire vraiment, bizarrement, tu vois, j'ai mis du temps à aller me décider. Enfin, on a mis du temps à se décider. Mais par contre, j'ai eu le sentiment que dès qu'on était pris en charge, je me suis tout de suite dit, ça y est, nos problèmes sont résolus, tu vois. Ça y est, c'est réglé. Je me revois même assise dans ce canapé là, tu vois, avec une sorte d'allégresse de ça y est, je suis sûre, tu vois, genre tous les mois, je me disais non, mais là c'est bon, ça va être bon. Donc j'ai eu ce moment là, puis évidemment, ça n'a pas marché comme on l'espérait, Et du coup, à ça a succédé pendant un bon moment, j'avais l'impression d'être punie. J'avais vraiment le sentiment que... tu sais, que j'avais... En plus, moi, j'ai l'impression que j'ai pas mal... On dit que les traitements font grossir, il y en a qui disent que non. Moi, il se trouve quand même que j'ai pris bien 10 bons kilos en 3 ans, même plus que ça, je pense. Et les traitements, quand même, font gonfler, tu vois. Ça veut dire, du coup, comme tu es hyper stimulée, tu as des ovaires qui grossissent, tu as le ventre qui grossit. Alors moi, peut-être pas toutes les femmes, hein, mais les seins qui prennent, moi, des espaces délirants. Donc, j'avais ce sentiment, tu vois, de... En permanence, si tu sens quand même que ton corps morfle, que toi, émotionnellement, bah, c'est quand même dur, parce que du coup, tout à coup, le moment d'allégresse passé, on est passé dans une phase de bah, « en fait, peut-être qu'on n'aura pas d'enfant, tu vois, peut-être que ça ne marchera pas ». Et en plus, comme moi, je n'ai pas de pathologie avérée, tu vois, à part que voilà, j'ai un début d'insuffisance hormonale, ovarienne, c'est ce qui est marqué sur le dossier. Mais au début, pendant 2 ans, c'était marqué... infertilité inexpliquée, tu vois, il n'y avait pas de raison. Donc, du coup, à ça est passé, moi, j'ai vraiment eu pendant un moment le sentiment d'être punie, quoi. Le sentiment que, bah, voilà, je faisais tout bien comme il fallait dans ma vie, que j'essayais de tout bien faire, mais que, bah, j'avais la double peine, quoi. Que non seulement ça ne marchait pas, mais qu'en plus, j'avais des symptômes qui ressemblaient à des symptômes de grossesse, et puis que, bah, il n'y avait rien, il n'y a pas de grossesse. Et puis, il y a aussi un peu, tu sais, l'usure. Je pense qu'il y a eu aussi à ce moment-là, tu vois, l'usure permanente de. J'espère, en essayant, tu vois, de... Parce qu'il y a ça aussi, il y a tout ce qu'on te raconte sur bah, ce dont le billet dont j'ai parlé, où je dis que tout le monde te dit tout le temps, vous verrez quand vous arrêterez d'y penser, ça marchera, mais... Mais comment tu vas arrêter d'y penser quand t'as des piqûres à te faire tous les jours, des machins, des trucs, que tu vas faire des échographies à des heures délirantes, que toute ta vie tourne autour de ça, tu peux pas ne pas y penser. Donc en plus, il y avait ce truc de... J'ai conscience que si je suis trop stressée et que si je suis trop inquiète et que si je le veux trop, en quelque sorte, il n'y a aucune chance... Enfin, je crois que si je me mets dans cet état d'esprit, il n'y a aucune chance que ça marche. Donc, en plus, il faut que je trouve en moi les ressources pour tout le temps retrouver cette espèce d'état de... Je garde une place pour l'espoir, mais j'espère pas trop quand même. Et que moi, je pense qu'elle est quand même épuisante aussi. Si tu as une sorte de terreur au fond de toi, bah, elle est là, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux... Avec de la respiration, essayer de la calmer, essayer de faire en sorte qu'elle ne prenne pas le pas sur toi. Mais en vrai, elle est là quand même. Donc, et à ça, à succéder, je pense, se passera ce qui se passera, tu vois. Ça veut dire, à un bout d'un moment, bah...
À lâcher prise, peut-être.
Oui, enfin, j'essaye de pas trop utiliser ce mot-là, parce que c'est un peu un tiroir, le truc du lâcher prise, mais c'est l'idée de se dire, ben, de prendre... En fait, c'est plus de prendre conscience... que peut-être c'est ça qui va arriver. Mais en vrai, c'est une probabilité.
Donc, que t'aies pas d'enfant.
Ouais, que tu vois, que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais dans les deux cas, bah, il faut... Je pense que la troisième étape, ça a été ça. C'était de faire entrer en moi la possibilité. Et je pense, même pour mon mari, je pense que ça a été plus clair dès le départ. Il est plus, lui, en mode, si on a des enfants, c'est bien. Puis si on a... Il a ce tempérament génial des gens qui acceptent la vie comme elle est, naturellement, sans faire d'efforts. Donc c'est super. Mais pour moi, ça a été vraiment... Et ça l'est toujours. Hein. En vrai, c'est quelque chose qui est comme un petit peu qui va et vient, tu vois. Il y a des moments où je suis hyper tranquille avec ça, je me dis bah oui, c'est ça, c'est comme ça. Et puis d'autres moments où je me dis oui, mais non, mais c'est pas ça que je voulais dans ma vie, et du coup, à quoi ça va ressembler l'avenir. Et tu vois, je pense que cette troisième phase-là, je suis plus anéantie par ça. Mais aussi parce que j'ai encore l'espoir que ça marche, tu vois. Bien sûr, j'ai toute conscience que peut-être il arrivera un moment où les choses s'arrêteront et... Bon, ce sera autre chose qui sera à construire dans ce cas-là, si c'est comme ça que les choses arrivent après, mais voilà.
Et est-ce que tu as déjà voulu baisser les bras, enfin, abandonner ?
Tellement de fois.
Ouais.
Tellement de fois. Parce que c'est, en fait, c'est dur quand même. C'est quand même un parcours, je trouve, moi, émotionnellement difficile. Je vais même te dire, je me sens que mon corps, il... Tu sais, je sais pas, c'est difficile comme sensation à expliquer, parce que ça tire sur le corps, quoi. Tu sens que tes ovaires... sont contrariés, enfin ils sont pas dans une activité normale. Mmh. Donc je m'étais vraiment dit en juillet, j'en peux plus là.
Il y a 3 mois, tu as appris que tu étais enfin enceinte.
Ouais.
Comment tu as réagi à l'annonce de ta grossesse ?
Eh ben figure-toi que, alors j'étais évidemment avec David, on était comme, c'était merveilleux. Mais par contre, quand même, ça a laissé un peu des séquelles, tu vois, ça veut dire. j'ai passé, je pense, 3 semaines à me réveiller. Parce qu'en fait, peut-être je vais revenir sur une chose qui s'est produite beaucoup pendant toute cette période. C'est aussi ce moment où t'as beau être une personne raisonnable et sensée et adulte, tu te mets à voir que t'as des retards de règles et des machins. Et des... Enfin, j'ai cru un nombre de fois incalculable que j'étais enceinte. Tu vois, j'ai eu un désespoir. C'est arrivé plein de fois que je me dise ça y est, là, je le sens, je suis enceinte, tu vois. Et du coup, ce truc de voir mes règles arriver et machin, à chaque fois, c'est comme vraiment difficile à vivre, hein, on va pas se mentir, de l'annoncer à ton mari, de tout ça, tu vois. Okay. C'est quand même difficile à vivre. Et du coup, quand on a su que j'étais enceinte, je me levais tous les matins en me disant « Non, mais tu l'as rêvé. C'est pas possible. Tu vois, je devais refaire mentalement tout le chemin. De... Non, non, t'as fait des prises de sang. L'hormone, machin, là, elle dit elle n'existe que quand t'es enceinte. Sinon, elle n'est pas présente dans le corps. Donc, il peut pas y avoir d'erreur. En plus, elle était dans des grosses proportions. Donc, tu sais, mais j'avais vraiment besoin de refaire mentalement tout le chemin de « Non, non, tu t'es pas trompée. Rassure-toi. Tranquille. Tout va bien. T'es vraiment enceinte. » Et puis, bon, après, les symptômes physiques sont apparus assez vite. Après, ces symptômes-là ont fait... que je me suis un peu détendue. Je me suis dit, ok, je suis vraiment enceinte. Et puis, l'autre truc qui a ancré les choses et qui a rendu ça super, c'est que aussi, j'étais en vacances. J'étais chez ma maman, il y avait toute la famille qui était là. Et je savais que j'étais chez maman pour un mois. Et du coup, je me disais, mais je peux pas ne pas lui dire. Enfin, je peux pas ne pas... Parce que, l'air de rien, nos parents, ils sont aussi dans ce truc de bah, ils voudraient bien être grands-parents, puis ils le sont pas. Et... Donc il y a ça aussi. Donc du coup, on l'a tout de suite dit à maman. Et puis, bah, du coup, on a partagé ça. Tu vois, puis après, on l'a dit, en fait. On l'a pas dit à tout le monde, mais on en a parlé. Et donc, ça a été une très, très belle période.
Comment tu as vécu cette première grossesse tant attendue?
Ah ben moi, c'était merveilleux. Enfin, vraiment, je dois dire que... Ça a été... Déjà, alors, il y a une chose qui fait que ça change pour moi aujourd'hui. C'est que bah, le fait d'avoir été enceinte, j'ai pas eu de symptômes désagréables. Moi, j'étais juste complètement amorphe. J'avais envie de dormir toute la journée. Ce qui ne m'arrive pas, parce que je suis quelqu'un qui se lève à 7h du matin spontanément. Tu vois. Donc, c'était vraiment... Tout était nouveau pour moi, avoir envie de me coucher à 10h et à 11h du matin, être encore là, genre, oh, je voudrais tellement dormir. Ça, j'ai eu des toutes petites nausées, mais vraiment à peine dérangeante. Et ce truc qui a changé, c'est que mon corps avait l'air de tellement être à sa place dans l'état de grossesse. J'avais tellement le sentiment que c'était ultra naturel, que j'étais, mais que vraiment j'adorais ça, être enceinte, que c'était, je me sentais hyper bien, que même les désagréments n'en étaient pas. Ça a été un état, mais vraiment de grâce, quoi. J'ai adoré ça, puis sans compter. Évidemment, bon, bah, la joie que ça représentait. Tu vois, je dois dire que ça a aussi créé ce truc-là de « Ah oui, c'est vraiment ça que je veux dans ma vie, quoi. »
Tu avais pu imaginer une seule seconde que... Ou est-ce que tu étais stressée, d'ailleurs, par rapport à ça, que ça puisse s'arrêter?
En fait, moi, j'étais très stressée par la fausse couche. Mmh. Et j'avais vraiment peur de ça. J'avais compris, tu vois, dans ma tête, c'était ça le poison de la femme enceinte, c'était qu'elle risquait de faire une fausse couche et que même dans ma tête, c'était le plus probable, c'est que tu fasses une fausse couche. Donc ne te réjouis pas trop. Enfin, c'est pas vrai. Moi, je me suis réjouie à fond. J'en ai profité totalement. Et j'ai bien fait, donc. Mais c'était ça qui m'angoissait. C'était la fausse couche. Mais par contre, pas un instant, m'est venue l'idée d'un problème chromosomique ou autre chose, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une échographie avec mon médecin. Parce que j'étais en vacances quand on a fait la première échographie pour vérifier les choses. Puis tout ça s'est passé l'été et pendant les vacances. Donc c'était ça aussi, d'ailleurs, c'était merveilleux. Et du coup, bah, lui, il a voulu vérifier rapidement un peu ce qu'il en pensait. Et en fait, à ce moment-là, le bébé agitait sa tête comme ça, ses petits bras, ses petites jambes parfaitement. Et il nous a dit, oh là là, bon, vous inquiétez, on était à 2 mois à peu près. Et nous a dit, hop, oh, bon, vous inquiétez pas, il est bien accroché, vous ferez pas de fausse couche. Et en fait, à ce moment-là, j'ai laissé tomber mais complètement toutes mes angoisses. Ça veut dire, je me suis dit, ça y est, enfin, complètement. Oui et non. Mais dans ma tête, c'était clair que là, il n'y avait plus de problème. Que le reste, c'était une formalité. Donc, on est quand même allé à la première échographie. comme une balade de santé, quoi. Mmh. C'était un beau... Enfin, on s'attendait à vivre un beau moment. Enfin, de toute façon, évidemment qu'on s'attend à vivre un beau moment. Hein.
Et donc, vous faites la première écho, donc c'était au bout des 3 mois ?
Exactement. On l'a faite assez tard. Enfin, sur les 3 mois, on a pris vraiment notre temps. Mais justement pour ça, on n'était pas pressé, puisque tout allait bien, tout allait bien. Et puis, en fait, l'écho... Le radiologue, je cherchais mon mot, qui a fait l'échographie, en fait, nous a dit « Ah, il n'est pas bien positionné, je vois pas bien, ce serait bien que vous reveniez plus tôt. » Et de fait, il n'était pas... Moi, j'imaginais qu'on voyait le bébé de profil, et je crois que c'est ça, le but, c'est qu'on voit une coupe un peu de profil pour mesurer justement l'épaisseur de la nuque. Et là, il était de dos par rapport à nous, ce qu'on voyait. Mais par contre, on voyait l'activité cardiaque, on voyait ses bras, c'était super mignon, ses petites mains et tout, donc c'était vraiment cool. Et voilà, donc il nous a dit revenez dans quelques jours, et puis donc on a repris un autre. Il nous a dit aussi tout de suite vous serez pas avec moi, mais s'il y a besoin, je serai là et je vais vous mettre entre les mains d'un super obstétricien, vous inquiétez pas. Et en fait, alors moi, quand on m'a dit vous inquiétez pas, j'ai fait ok, je m'inquiète. Et comme j'ai un tempérament très très inquiet, vraiment très inquiet, je me suis dit non, Anne-Solange, ça suffit. Maintenant, les choses vont bien, voilà, t'as galéré pendant des années, il n'est pas question que les choses se passent pas bien, tu ne t'inquiètes pas, tu n'inquiètes personne. Juste voilà, le bébé n'est pas bien positionné, tu ne t'autorises pas l'inquiétude. Et bon, alors que voilà, encore une fois, des fois il faut juste accepter de s'écouter. Du coup, j'envoie des petits mots bien sûr à nos parents qui attendaient cette échographie comme le loup blanc, en disant vous inquiétez pas, tout va bien, il était juste mal positionné, on revient, on la refait la semaine prochaine. Et en fait, la semaine d'après, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai juste, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au fond, même avant ça, c'est ça qui est bizarre, je dirais même quelques jours avant, je l'appréhendais en fait. J'ai souvenir d'avoir eu des idées de est-ce que mon instinct, parce qu'on a souvent parlé de l'instinct de maternel avec des amis, et qui elle me disait l'instinct maternel c'est tellement sûr que tu peux complètement t'y fier. Et je me souviens avoir eu cette pensée de est-ce que tu crois vraiment que tout va bien ? C'est quoi ton instinct ? Ton instinct il dit que tout va bien ? Et je me souviens avoir vraiment pensé, ben non, mon instinct, il me dit rien. Il me dit pas, en tout cas, il me dit pas que tout va bien. Et bon, bref, ça, en fait, on sait pas. Et donc, on retourne à cette deuxième écho. Et là, le médecin ne prend même pas le temps de me saluer. Dit pas bonjour, installe David à l'arrière.
Donc, c'est un médecin que tu n'avais jamais vu.
Non, que j'avais vu, bah, c'est toujours souvent, c'est ça, dans ces centres-là. Mmh. Voilà, donc il est hyper, voilà, pas du tout désagréable. Hein. Il nous a dit, bon, bah voilà, le cœur bat parfaitement bien, les membres ont l'air parfaits, enfin voilà, tout a l'air là. Mais il y a une particularité. Et voilà, la particularité était une grosse particularité en fait. Et du coup, voilà, il nous a dit ça de manière assez clinique, et ça a été assez rapide.
C'était quoi du coup cette particularité ?
Alors, c'est la particularité, c'est un nigroma cervical. Un nigroma cervical, alors si, pareil, hein, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Mais en gros, donc la clarté nucale permet de vérifier, enfin, c'est un des indicateurs de trisomie. Et en gros, quand elle est très épaisse, c'est un nigroma. Et alors nous, c'était, je crois que enfin, je ne sais plus les chiffres, mais c'était énorme, quoi. Ça veut dire, c'était énorme, énorme. Donc il nous a dit rapidement... Bon, parfois, il arrive que ça se résorbe, mais sinon, ça révèle, ça peut être plein de choses, en fait. C'est pas nécessairement des problèmes chromosomiques, visiblement. Voilà, il nous a dit, ça peut... Enfin, il a été très flou, en fait. Il nous a juste dit, ça peut révéler un problème grave. Vous allez faire, tu sais, on doit faire aussi une prise de sang. Donc, il nous a dit, vous allez faire cette prise de sang. Envoyez les résultats avec le médecin rapidement, et puis, voilà. Et puis, dans la salle d'attente, moi, j'ai pas regardé. Mais déjà, j'ai senti que David et moi, tout de suite, on a compris que c'était vraiment grave, quoi. Tous les deux, mais alors lui, pendant qu'on attendait, il a regardé sur internet ce que c'était, et en fait, bah, assez vite, on a compris que c'était très, très problématique. Ça veut dire, en vrai, les chances que les choses aillent bien étaient mineures. C'était que finalement, ça aille bien, c'était faible. Et du coup, voilà, bah, on a fait la prise de sang ensuite, bah, tout de suite après, mais dans un état de panique, quoi. Ça veut dire, moi, je me souviens, à ce moment-là, je nous revois dans la voiture avec David, et je me souviens m'être dit, non, là, ça va trop loin. Ça, je ne peux pas gérer. Vous faites comme vous voulez, mais moi, là, c'est trop me demander. Je ne peux pas rien. Je ne peux pas perdre cet enfant. Il ne peut pas lui arriver rien de mal. C'est non, je n'accepte pas cette situation. Et ça m'a vraiment paru pendant j'ai eu, je pense, pendant une heure, vraiment le sentiment que Là, ça avait dépassé mes compétences et mes limites de tout, émotionnel, physique, que je ne pouvais pas traverser ça. Et puis bon, bien sûr, comme on le disait un petit peu avant, on a plus de ressources qu'on imagine. Et que bon, aussi, les choses se font dans le temps. Ça veut dire que tout ne s'est pas déroulé en une heure. Donc, il y a eu ça. Et puis ensuite, ça a été l'enchaînement d'une sorte de tunnel... terrifiant en fait, parce que assez vite on a compris que donc comme je te disais que c'était grave. Moi j'ai passé, je me souviens, l'après-midi, David est quand même allé travailler parce que ça fait pas de sens de rester à rien faire et à se lamenter, donc il est quand même allé bosser, mais moi j'étais à la maison et j'ai passé l'après-midi à chercher sur internet des informations, comme c'est pas non plus un truc très fréquent en hygroma cervical, Dieu merci. C'est pas très fréquent, il n'y avait pas beaucoup d'infos et surtout je voulais pas me laisser attraper par des informations approximatives. Donc je me suis vraiment tout de suite lancée en quête de production scientifique, de trucs comme ça que j'étais pas forcément en mesure de comprendre. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais il s'est avéré quand même que j'ai trouvé les bonnes sources assez vite. Et le lendemain, parce que si ça c'est un truc aussi quand même, moi je suis suivie par un psy depuis pas tout à fait un an. On a choisi quelqu'un qui est un psychiatre, hein, c'est même pas un psychologue, et il est psychiatre. Et surtout, il est spécialisé dans l'anténatalité, les problèmes liés à la fertilité et tout ça. Et ça, vraiment, ça a été une grande chance parce que, typiquement, le lendemain, j'avais rendez-vous avec lui. Et du coup, je lui ai pu lui expliquer. Déjà, il savait exactement de quoi il s'agissait, le fait qu'il soit médecin et qu'il ait travaillé dans... Enfin, il avait vraiment... il savait exactement ce que c'était et qu'est-ce qui se passait. Et comme... Du coup, je lui ai expliqué ce que j'avais compris et à quoi on s'ex... Enfin, qu'est-ce qui allait possiblement se passer. Et du coup, c'est bien parce que vite, on a compris c'était quoi les chances... tu vois, les proportions de... que ça puisse être une trisomie, que ça puisse être un autre problème, etc. Et en gros, la situation dans laquelle on était, c'était il y a 30% de chance, ou 35%, que ce soit un problème chromosomique, donc pas forcément une trisomie, mais un problème chromosomique. On a fait une biopsie, du coup, 5 jours après. Nous, le médecin à la biopsie nous a dit, en gros, il y a 10% de chance qu'il aille bien et que tout se résorbe. Et, voilà. Donc assez vite, on a su... que si la biopsie qu'on faisait donnait rien, on allait partir pour des semaines, voire des mois d'intranquillité, voire toute la vie. Parce que, en fait, les études que j'ai lues après sur l'hygroma cervical, il y a des enfants qui s'en sentirent très très bien. Mais j'imagine que quand tu as vécu un tel stress, il y a quand même beaucoup beaucoup de malformations du coup, que tu ne peux pas voir à l'échographie et qui ne se révèlent pas tout de suite. Donc voilà, on a eu conscience aussi assez vite que quoi qu'il arrive... l'insouciance de cette grossesse était terminée, était derrière nous, et voilà. Mais par contre, les choses se sont passées quand même assez vite, tu vois, on a eu l'échographie, cette échographie, ensuite on a eu notre médecin qui tout de suite a pris les choses en main, nous a pris un rendez-vous, nous a dit, vous appelez tel médecin, et vous dites, vous voulez un rendez-vous demain, et vous appelez de ma part, enfin voilà, on a été hyper bien drivés, tu vois, les choses du coup se sont faites quand même assez vite, on a vu le médecin... qui a pratiqué la biopsie rapidement, tout de suite il nous a, le généticien nous a dit voilà c'est ça vos chances, c'est ça qui se passe, vous avez
ça
nous
a même dit, du coup à ce qu'avait dit
oui c'était complètement confirmé. Là visiblement c'était un peu comme le nez au milieu de la figure quoi. Tu ne peux pas passer à côté, donc il a été très clair. On a eu de la chance vraiment pour ça, parce qu'on est tombé que sur des gens qui étaient vraiment super compétents et quand même très humains aussi. Tu vois, et là celui-ci nous a dit d'emblée, nous a dit moi, je vous le dis tout de suite, je suis très pessimiste sur cette grossesse. Si vous me dites même que vous souhaitez l'arrêter maintenant, on fait. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, j'étais dans les temps aussi pour faire un avortement. J'étais encore dans la fenêtre où il n'y avait pas besoin de faire appel à un conseil des médecins, blablabla, pour obtenir l'intervention médicale. Mais nous, on a quand même décidé... En fait, il nous a dit, je ne vous embête pas si vous voulez interrompre la grossesse maintenant. Il nous a dit, je vous conseille quand même de faire les examens. D'attendre et de faire les examens, parce que au moins s'il y a un problème chromosomique, peut-être ça peut révéler une anomalie de votre part, ou pour les prochains bébés, ou pour voilà, il nous a expliqué que c'était quand même bien de les faire. Donc on a fait 8 jours après cette échographie, donc on a quand même eu 8 jours, tu vois, pour accepter la situation, quoi. On a en 8 jours, il se passe quand même, tu passes aussi par différents stades, tu vois. Il y a le moment où on était sous choc et où on était incapable de réfléchir. Puis bon, après les choses se sont passées, Dieu merci, on en avait parlé à nos familles, donc il y a eu beaucoup de monde pour éponger nos larmes et aussi notre besoin de répéter sans cesse ce qui nous arrivait, de redire ce qu'on avait entendu de chaque rencontre avec un médecin, un psy, un machin, un truc. Enfin, on a vraiment pu répéter ce qui nous arrivait, et je pense que ça nous a permis de ne pas être submergés. Ça veut dire que, certes, ça a été affreux, d'ailleurs tu vois bien, j'ai la voix qui tremble tout le temps en parlant, mais par contre, ça n'a pas été l'image que j'ai eue d'emblée. Ça veut dire, je vais mourir en fait, je peux pas vivre ça, c'est trop. Et voilà, donc on a été très très entourés pour ça. Et puis ensuite, on a eu les résultats de la biopsie, 48 heures après. Et le médecin nous avait demandé, je me souviens, si on voulait que ce soit un médecin qui nous annonce, ou si on voulait les recevoir par téléphone. Et en fait, si on attendait que le médecin généticien nous annonce les résultats, pour nous les expliquer, etc. Et aussi parce que ils considèrent que c'est quand même mieux si t'es pas tout seul pour recevoir ce genre d'informations. Il fallait qu'on attende encore un peu plus longtemps. Et moi, ce que je voulais, c'était d'emblée, je voulais qu'on voit notre médecin et que le médecin qui nous suit en PMA, puis qu'on envisage aussi le cas où il fallait faire une interruption de la grossesse. Ça veut dire, on était déjà conscient que de toute façon, il fallait se préparer à toutes les possibilités, puis essayer aussi nous de décider qu'est-ce qui était OK pour nous ou pas, parce que finalement, si c'était une trisomie, en vrai on était aussi dans le cas de parce que dans les problèmes chromosomiques, il y en a quand même un paquet différents. Il y a la trisomie 21 où on peut décider qu'on veut le garder aussi, enfin voilà, il y a des parents qui décident ça, et moi je ne sais pas ce qu'on aurait choisi en fait. Il y a des trisomies qui sont tout à fait viables. Il y a la maladie de... quand c'est une monosomie, je ne sais plus le nom de cette maladie, mais visiblement, il y a des fœtus qui sont tout à fait viables. Il y a des gens qui vivent très bien avec cette maladie. Donc, on savait qu'on allait aussi être confrontés à cette question de la décision. C'était pas juste votre bébé, il va mourir ou il va pas mourir. C'était toutes ces questions que tu penses que tu vas pas te poser dans la vie, elles étaient là. Donc voilà, on voulait voir notre médecin et ça fait que on voulait pas attendre. Donc on a fini par dire qu'on aurait les résultats par téléphone. Et je me souviens, j'étais assise à la place où tu es assise là, quand il nous a appelé et il nous a dit que c'était une trisomie 18. Il nous a dit aussi le bébé n'est pas viable. Et voilà. Et bon, alors coup de chance, j'étais sur Skype avec mon père aussi à ce moment-là, donc j'étais pas toute seule pour recevoir ça. Et puis finalement, après ça...
C'est quoi, votre bébé n'est pas viable ?
Votre bébé n'est pas viable, c'était en gros, il va mourir quoi qu'il arrive, quoi. Voilà.
Intra-utéreux ?
Il nous a juste dit ça, au téléphone, votre bébé n'est pas viable. Nous, on a eu le médecin, le lendemain ou le surlendemain, envoyé notre médecin, qui nous a donné un peu plus d'explications. En fait, il nous a dit que les trisomies 18, pardon... souvent ça donnait des fausses couches tardives, très tardives, genre 5e, 6e, 7e, 8e mois, qu'il arrivait que les bébés naissent, mais que dans ce cas la plupart d'entre eux vivaient une semaine, très très peu de temps. Voilà, la proportion de morts in utero est gigantesque, quoi. C'est de l'ordre de 95%, je crois, enfin, c'est vraiment très important. Donc voilà, il y avait ça. Et
donc tu reçois cet appel, tu es avec ton papa sur Skype.
Voilà, en fait c'est surtout, oui, mais en fait là il s'est juste passé que bien sûr, j'ai pleuré. J'ai fait ce que toute personne normale fait, je pense. Bon, ça paraît cas, j'ai pleuré. Puis mon papa aussi d'ailleurs pleurait, on pleurait tous. Et puis voilà, mais en même temps, tu vois, il y avait eu quand même, c'est pas comme choc sur choc, on était déjà préparé à cette éventualité, on avait déjà notre rendez-vous programmé avec le médecin pour voir qu'est-ce qui allait se passer si on devait faire une interruption de la grossesse. Avec David, on avait quand même déjà décidé que, on avait décidé qu'on ne voulait pas garder un enfant qui avait un problème grave. Mais moi, je te dirais que j'étais décidée plus, tu vois, j'avais quand même un tiraillement qui était très très fort sur... j'étais pas si décidée, enfin, j'étais intellectuellement et mentalement décidée, mais par contre, émotionnellement, pas du tout, quoi. J'étais pas du tout, puis... Mais en vrai, j'allais bien, quoi. Ça veut dire, moi, tout... Enfin, j'avais en moi ce truc de, oui, mais mon bébé, il est là. Moi, je le sens, je vis avec, puis c'est en plus... Ça a été toute cette période-là, ça a été le moment où mon ventre est vraiment sorti. Où c'est devenu vraiment apparent que j'étais enceinte. Et aussi apparent pour moi. Et, Et aussi, du coup, je sentais pas bouger, hein, c'était trop tôt pour ça, mais par contre, je sentais vraiment sa présence, quoi. Vraiment, vraiment, très fort. Et j'étais hyper heureuse de ça, quoi. Ça veut dire qu'il y avait ce paradoxe de... je suis hyper heureuse, en fait. Je suis quand même assez affreuse. Je me disais, on va devoir se séparer, mais en fait, moi, je suis hyper heureuse d'être enceinte. Il est là, mon bébé, je suis heureuse d'être avec lui, quoi. Malgré tout, tu vois, malgré ce truc-là. Donc, bon, il y a eu tout ça. Et puis, bah, on a quand même programmé une interruption de grossesse. On a quand même décidé que, voilà, les signaux étaient quand même tellement, tellement négatifs. En fait, je pense... Je ne sais pas ce que David en aurait pensé, puisqu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais si je n'avais pas eu 40 ans, et donc le compteur qui tournait méchamment, je ne suis pas sûre que j'aurais fait une interruption de grossesse. Je pense que je me serais dit... Moi, mon instinct me disait vraiment, bah, cet enfant, pour l'instant, il est bien. Toi, tu es bien. Tout le monde est en bonne santé. Peut-être que sa vie va s'arrêter. On m'a garanti qu'il n'y avait pas de souffrance de sa part. Moi, en fait, mon instinct était plus tourné vers vivons ce qu'on a à vivre ensemble. Et puis, ok, ça va s'arrêter. Mais bon, de toute façon, la vie, ça s'arrête à un moment. Donc, voilà, pour tout le monde. Donc, lui, sa vie, finalement, c'était elle. Si elle, sa vie, ça doit durer 4 mois ou 5 mois ou 6 mois ou 7 mois dans mon ventre, est-ce qu'on peut pas se dire que c'est ça, quoi? Que très bien, on fait comme ça. Et puis, déjà, je sais pas si David, il aurait envisagé les choses comme moi. Et puis, il y avait ce compteur terrible de voilà, j'ai l'âge que j'ai, hein, j'ai eu 40 ans la semaine dernière, donc voilà. Ça a été ma manière d'accepter un peu les choses, tu vois, de me dire, mais non, ça, tant pis, je préfère vivre cette immense douleur maintenant, et puis vivre aussi avec le poids, quand même, de mettre fin à la vie d'un être vivant, quoi, moi-même, et puis l'être vivant que j'attends depuis tellement d'années, donc... C'est sûr qu'en soi, ça paraît insurmontable de faire ça, mais finalement, je pense aussi que j'ai eu ce truc où je me suis dit, en fait, Anne-Solange, ce que tu veux, c'est quoi? C'est être mère, et là, tu es face à une décision de parent à prendre, et voilà, il faut la prendre. Donc voilà, on a décidé de l'interruption de grossesse, et alors, il y a eu un autre truc après ça. Il y a eu que... assez vite, moi je m'étais jamais trop posé les questions de comment ça se passait, hein, une interruption de grossesse, et assez vite notre médecin nous a dit, il nous a expliqué, hein, que à ce moment-là ça allait être un accouchement, en fait, et je me souviens de cet instant de ok, donc alors là je pensais être au max du max des horreurs que je pouvais avoir à vivre, et il va y avoir ce truc-là à vivre en plus, tu vois, c'était comme genre, j'avais l'impression, tu sais, qu'on m'enfonçait des trucs sur la tête, et à chaque fois que je commençais à sortir la tête de l'eau, poum, il y avait un nouveau truc qui se présentait. Donc ça, je dois dire que voilà, mon médecin m'a dit que ça allait se passer comme ça, je vois mon psy, qui est donc spécialiste du truc, me dit lui aussi, au terme où vous êtes, en principe, on va vous faire un accouchement par voie basse. Et coup de théâtre, le médecin que je rencontre pour pratiquer l'interruption me dit, en fait, vous, là où vous êtes, j'étais comme à 2 jours ou un truc comme ça, et dit, à la date où on peut faire l'interruption, il est encore possible de vous faire une interruption de grossesse par aspiration. Ou sinon, on fait ce qui était convenu au départ et qui inclut quand même 2 jours d'hospitalisation, voilà, enfin... Je te décrirai après, mais voilà. Et bizarrement, ça a été quelque chose de très très étrange pour moi. C'est qu'à mesure qu'elle me disait, puis elle a été super, elle m'a dit, on vous donne le choix, vous choisissez. Et elle m'avait même dit, vous n'êtes pas obligé de choisir tout de suite. Il y a des médicaments à prendre 3 jours avant pour, je ne sais plus, diluer l'alcool ou je ne sais pas quoi. Vous avez 3 jours pour vous décider. Prenez tout le temps dont vous avez, même si vous avez besoin d'un peu plus, on se débrouillera. Enfin, prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence, vous n'êtes pas obligé de me le dire tout de suite, ce que vous choisissez. Et alors, contre toute attente, je me souviens que je me sentais vraiment hyper mal à l'idée de faire ça. Parce qu'en fait, c'est une anesthésie générale, du coup, et puis tu vois rien, hein, genre, t'endors. 2 heures après, même pas, une demi-heure après, c'est fini, tu rentres chez toi, terminé. Et je me suis sentie très très mal, et je lui ai posé la question du coup au médecin, je lui ai dit, écoutez là docteur, j'ai quand même une question, votre expérience va m'aider. Je lui ai dit, normalement je pense que je devrais être très soulagée par l'idée de ne pas avoir à vivre l'option interruption par voix basse. Et c'est tout le contraire qui se passe, je me sens complètement paniquée. Et elle m'a dit, bah, c'est pour ça que je vous propose en fait. Elle m'a dit, c'est parce que c'est souvent, enfin voilà, elle dit, on ne sait pas, les femmes vivent les choses de manière très différente les unes, avec les, enfin, les unes des autres, et nanana. Et puis là-dessus, je me suis tournée vers David et je lui ai dit, écoute, si tu as besoin qu'on en discute, parce que bah, c'est aussi son problème, hein, donc si tu as besoin qu'on en parle, si tu as besoin que tu te sentirais mieux si je prends du temps pour qu'on en discute, nanana, on fait tout ce que tu veux, mais je lui ai dit, si toi tu es à l'aise avec cette idée-là, moi je sais, je préfère faire une interruption de grossesse par voix basse. Et bon, David, lui, m'a tout de suite dit, bah, ok, moi, c'est ton corps, c'est toi, tu te connais très bien, donc si tu sens que c'est ça, tu sens que c'est ça. Et puis, bien sûr, en sortant du rendez-vous, tout à coup, j'étais assaillie par « Mais pourquoi je veux faire ça ? Mais c'est quoi mon... enfin, c'est quoi le point ? C'est quoi la raison ?» Et puis, dans les jours suivants aussi, il y avait mes amis, parce que du coup, l'interruption a été programmée pour une semaine encore après, une bonne semaine même. Donc, du coup, j'avais encore le temps de me préparer et de voir venir. Et donc, voilà, dès en sortant, j'ai eu un moment de « Mais est-ce que c'est un caprice ? Est-ce que tu veux que... Est-ce que c'est pour, je sais pas, m'en faire trop, tu vois, j'ai été vraiment assaillie par, mais pourquoi est-ce que je veux m'infliger ce truc-là aussi ? Et puis finalement, en réfléchissant, après m'être calmée, j'ai compris, c'était très simple, c'était juste que, ben, puisque j'avais décidé que, enfin, qu'on avait décidé que on allait arrêter cette grossesse, moi, par contre, ce que je savais, c'était que je voulais être avec mon bébé tout le temps, et que, enfin, je voulais l'accompagner, quoi, je voulais juste être présente avec... avec lui, et même si peut-être c'est que symbolique, en fait, on sait, le problème c'est qu'on ne sait pas. Donc on peut décider que non, ce n'est pas un vrai bébé, on peut décider que tout ce qu'on veut, mais en fait la vérité c'est qu'on ne sait pas. Et maintenant je le sais, c'est ça que je voulais en fait, simplement, ce n'était pas le voir, ce n'était pas rien de tout ça spécialement, c'était, je pense qu'on m'aurait dit, par exemple, bah, votre bébé, on va l'endormir et son cœur va s'arrêter, et après on fera l'intervention. J'aurais dit, après, vous faites ce que vous voulez, quoi. C'est peu me chaud. Mais, en fait, il y a eu ce truc-là de, moi, ok, je veux juste l'accompagner. On décide d'arrêter sa vie, c'est une chose, et on sait pourquoi on le fait. Mais par contre, pas en disant, je ne suis pas présente et je laisse à d'autres le travail, en quelque sorte, quoi. Donc, voilà. Du coup, les choses se sont faites bizarrement comme ça. Et pendant une semaine, j'ai dû aussi pas mal batailler avec mes proches qui étaient vraiment paniqués par ça. Ça veut dire, ce que j'ai beaucoup ressenti et vu, c'était autour de moi, quand j'ai dit que ça allait être un accouchement par un accouchement, quoi, je voyais bien le visage des gens se décomposer. Ça veut dire, je voyais dans leurs yeux le « Oh non, on peut pas lui faire ça, quoi, c'est pas possible ». Et du coup, j'ai bien vu aussi que c'était difficile pour ces personnes de comprendre pourquoi c'était important pour moi et pourquoi, au contraire, c'était ça qui allait être guérissant pour moi. Et aussi, je pense, pour David. David, c'était difficile aussi pour lui. Je parle que de moi, mais bien sûr, ça a été difficile pour lui. Je ne veux pas parler à sa place, surtout. Et finalement, voilà, donc j'ai dû aussi pas mal donner mes arguments un petit peu, voilà, aux personnes qui étaient inquiètes pour nous, hein, simplement. En vérité, il n'y avait pas de jugement, de rien. Il y avait juste ce truc de « mais c'est vraiment horrible ce qu'elle va vivre, elle ne se rend pas compte, quoi ». Il y avait vraiment ce truc-là. Et puis...
Et alors, comment s'est passée cette...
Ben, encore une fois, tu vois, on a eu une semaine, du coup, entre le moment de « on sait ce qui va nous se passer » et le moment où ça se passe. En fait, il y a même eu un peu plus. Ça devait avoir lieu le jeudi, puis elle m'a appelé le médecin le mercredi ou le mardi, je ne sais plus, en me disant « on a un souci, on voudrait vraiment pouvoir décaler ». Donc, on a décalé un jour de plus. Et c'est marrant parce que moi, en fait, j'étais contente. Enfin, j'étais comme « ah, c'est trop bien, j'ai un jour de rab ». Et en fait, cette semaine-là, ben, ça va peut-être paraître étrange, mais... Il y a ma cousine qui est venue, mes cousines qui est très très proche de moi, qui était à Paris cette semaine-là. Donc, c'est génial, elle a passé la semaine avec nous. Mais moi, en fait, j'ai tout fait. J'ai eu un moment de... on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que ce soit bien. Donc, il faut que ce soit bien, ça veut dire il faut que tu dormes bien, il ne faut pas que tu sois inquiète. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, j'ai senti en moi ce truc de... Ok, bah c'est le temps qu'il y a à vivre, on le vit. J'avais lu que à partir de ce moment-là, les papilles gustatives du bébé commençaient à se développer et que le liquide amniotique avait goût des aliments qu'on mangeait. Du coup, j'ai passé une semaine à... c'est un peu idiot, mais à aller acheter tous les trucs que j'ai même mangé et je me suis pas goinfrée, mais j'ai fait tous ces trucs là il a fait beau cette semaine là donc je suis allée me balader avec David, avait pris un peu de temps aussi, il a pris du temps pour qu'on soit ensemble tout simplement, donc voilà, c'était une belle semaine en fait, c'est bizarre à dire hein, mais c'était chouette, on a passé une semaine de qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette semaine belle puisque c'est la seule qu'on a ensemble. Et du coup, bah, c'était une belle semaine, sincèrement. C'est bizarre à dire, mais j'ai bien dormi, j'ai pas fait de cauchemar, j'étais tranquille. Il y a juste eu ce moment vraiment difficile où j'ai pris les cachets. C'est sûr que là, ce moment-là était dur parce que c'était vraiment le moment où j'ai marqué concrètement le fait que ça, voilà, qu'on allait vraiment faire ça et que ça allait se terminer, cette grossesse. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, jusqu'au jour où on est allé à l'hôpital. Nous, on est rentrés à 4h, je crois, vers 4h, 4h, 5h de l'après-midi. On te pose des trucs qui, je crois, dilatent le col de l'utérus, ou font un truc... Voilà, et donc ils te le font la veille, tu passes la nuit à l'hôpital, ils te posent une péridurale aussi, je crois, pour cette pause-là. Ils te posent une péridurale pour cette pause-là, et aussi parce que visiblement, les contractions peuvent se déclencher dans la nuit. Je dis visiblement parce que la péridurale, je ne l'ai pas eue. Et donc ensuite, normalement, le lendemain, tu prends un cachet qui, je crois, lui déclenche le travail. Et ce cachet-là, tu en prends un toutes les 3 heures, je crois. Enfin, en gros, on voit ce que ça donne. Et puis, il faut attendre 3 heures et tu en reprends un. Et puis, il faut attendre, voilà. Donc, en gros, ce que tu sais, c'est que le moment peut durer... ça peut durer la journée. Ça peut se passer le soir. Ça peut se passer en milieu d'après-midi. Voilà, tu sais pas exactement combien de temps ça va durer. Et ensuite, une fois que ça s'est passé, tu passes...
Comment tu te sens?
Tu passes la nuit... alors, nous, quand on était... En fait, donc, du coup, c'était à la maternité. Donc David était là, on est arrivé, on a eu un petit moment d'attente pour se préparer et pour faire la péridurale. Mais en fait, moi, j'ai demandé à ne pas l'avoir parce qu'on m'avait plus ou moins dit que c'était pas un gros truc, la pose du dilapant, et que moi, j'avais vu aussi le truc de « je vais avoir une péridurale, ça se trouve, je vais pas pouvoir marcher, faire pipi comme je veux et dormir avec mal dormir et être pas bien ». Donc voilà, j'étais pas pour, ils ont été cool, donc on n'a pas fait la péridurale. Et du coup, le temps de préparation, on a eu un petit moment d'attente dans la chambre avec David, puis on a entendu des bébés pleurer. Alors ça, c'était vraiment, vraiment difficile. C'était vraiment difficile d'entendre. Et en même temps, ça aussi, c'est étrange. Le premier bébé que j'ai entendu pleurer, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Mais après, c'était le contraire, en fait. Après, ça a été tout le temps, je me suis dit, c'est ça, c'est la vie, je suis dans l'histoire de la vie, c'est ça la vie, c'est ça, de toute façon, c'est l'endroit où se jouent beaucoup de choses liées à la vie, à la naissance, je suis au bon endroit, et puis finalement, donc il y a eu ça, on a fait la pose du dilapant, et puis on n'avait pas trop réfléchi, mais du coup, David est rentré à la maison. On a dîné à l'hôpital, l'hôpital vers 8h m'a apporté à manger. Et puis voilà, il est parti, il est rentré à la maison après. Et moi, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, ah ouais, d'accord, en fait, ils avaient dit que c'était la pause qui faisait un peu mal, mais ils n'avaient pas dit qu'après, ça faisait hyper mal.
C'était quoi? C'était les contractions qui débutaient?
Et bien, en fait, c'était ça. Et les contractions, en fait, elles se sont déclenchées, mais très très vite. Je les ai appelées en disant, j'ai un petit peu mal au ventre. Et ils m'ont donc donné un efferlement. Et j'ai passé la nuit. J'ai pas vraiment compris que c'était les contractions. Mais comme j'avais mal au ventre, j'étais réveillée. Enfin, j'étais un peu somnolente. Donc j'ai passé du temps réveillée, pas réveillée. Mais en fait, cette nuit-là, ça a été une belle nuit. Ça veut dire, moi, en fait, je pense que j'étais tranquille avec ma décision, enfin. Et du coup, j'ai passé la nuit, j'avais la main sur le ventre et je me sentais bien. Enfin, j'étais juste dans l'état que je voulais. Ça veut dire, j'ai juste pensé à mon bébé et je n'arrêtais pas de lui dire, ok, t'inquiète, on fait ça ensemble. Et puis voilà, j'étais juste, voilà. Et finalement, ça a pas été, ça a même été une, bah, voilà, ça a été un moment de calme, de silence où, voilà, j'étais un peu somnolente, je me réveillais, je me rendormais, il y a eu ça. Et alors, c'est incroyable puisque je crois pas qu'on est censé sentir le bébé bouger, mais moi, j'ai senti quelque chose se passer dans mon ventre vers 4h du matin. Et puis voilà. Et le matin, je me suis levée et il m'avait demandé de me réveiller à 6h pour me préparer, faire la péridurale, tout le truc. Et quand je me suis levée, j'ai pris ma douche, j'ai brossé les dents, enfin tout le truc. Et là, j'ai compris que c'était des contractions. En fait, je me suis rendu compte parce qu'elles étaient rapprochées. Mmh. C'était vraiment comme très rapproché. J'ai fait comme ah, alors cette nuit, c'était pareil, mais juste elles étaient beaucoup plus éloignées les unes des autres. Et voilà, on est allé me préparer pour la péridurale. La sage-femme est arrivée. On a une super, super sage-femme qui visiblement était habituée à ça. Et elle est arrivée, donc elle nous a expliqué tout. David est arrivé aussi à ce moment-là. Elle nous a expliqué comment ça allait se passer. Et donc elle nous a expliqué qu'elle allait percer la poche des os et qu'ensuite le travail, donc elle allait nous donner les comprimés, enfin me donner les comprimés, et puis que le travail allait commencer. Et puis que là, après, ben, on ne savait pas le temps que ça allait prendre. Et en fait, elle a quasiment pas eu besoin de la percer. Elle a dit, oh, ça y est, j'ai touché, et voilà. Et puis en fait, elle m'a dit, hop, ben, elle m'a dit, il est là, votre bébé. Et j'ai poussé deux fois, et puis hop, c'était fait. Et bon, il était tout petit, donc évidemment, c'est pas du tout le même travail. Mais, et donc, bien sûr, il y a eu tout ce truc, et je pense que c'est important à raconter, de... Elle nous a expliqué, donc on a entre temps, enfin, il y a eu aussi toutes ces choses qu'on nous a expliquées, qu'on pouvait prénommer notre bébé, qu'on pouvait l'inscrire sur le livret de famille, qu'on nous a aussi posé les questions de la sépulture, comment est-ce qu'on voulait que les choses se fassent, ça peut être l'hôpital ou ça peut être nous, nos propres moyens, on peut organiser des funérailles aussi. Évidemment, elle nous a demandé si on voulait le voir ou pas. Voilà, il y a eu toutes ces choses-là. Et puis, donc elle nous a expliqué bien tout ça. Et le bébé est sorti. Elle nous a dit...
une fille, du coup.
Donc, du coup, une fille. Ce qu'on ne savait pas. En fait, elle nous a dit, bah, vous me direz si vous voulez savoir le sexe ou pas. Parce qu'en fait, on aurait pu le savoir aux examens de la biopsie. Et on avait dit non. Je pense qu'à ce moment-là, on était dans un truc de... moi, on en sait mieux, on va se porter, parce que c'est vraiment trop dur. Et bizarrement... quand ça s'est arrivé, elle nous a redit, elle nous a dit bon, de toute façon, vous me direz, vous pourrez me le dire quand vous voulez. De toute façon, moi, c'est noté dans le dossier. Donc, elle dit là, je vais nettoyer votre bébé. Si vous voulez le voir, apparemment, ils sont comme emmaillotés de toutes petites choses, mais bon, il faut en sorte que ce soit pas un spectacle difficile. Et puis, elle nous avait bien dit, elle nous avait dit, vous inquiétez pas, hein, c'est un bébé. Moi, j'avais quand même dit. J'avais dit, si jamais, dites-nous s'il y a des malformations très visibles, parce que ça me faisait un petit peu peur. Donc, je voulais juste, j'avais comme peur de... Donc, je lui avais dit, ça va nous aider à nous décider. Et puis donc, elle est partie. Et après, avec David, je me souviens juste que moi, je me suis, pour le coup, là, je me suis vraiment endormie. Et puis, on était tous les deux. On se tenait la main, enfin juste, en fait ça a été très... on a vraiment été ensemble, le fait d'être juste tous les deux, d'être vraiment ensemble et d'être calme aussi. David aussi, je pense qu'il s'est assoupi pendant un moment. Et puis elle est revenue. Et en fait, nous, notre décision, ça a été de pas le voir, le bébé. Mais par contre, on a eu envie de savoir le sexe. Et donc c'est là qu'elle nous a dit que c'était une petite fille. Donc bien sûr, ça nous a fait fondre en larmes tous les deux. Et puis c'est des bonnes larmes aussi en même temps. Hein. C'est des, y a quand même beaucoup de larmes. Toutes les larmes, même celles que j'ai là, moi je les crois salvatrices. Ça veut dire c'est des larmes qu'on a besoin de verser. C'est des bonnes larmes. Mais bien sûr que c'est du chagrin. Donc voilà. Et il y a eu ça. Et puis ensuite, bah, le reste, après, bon, ça a été l'expulsion du placenta. Moi, j'ai pas de difficulté à... Ça aussi, la PMA apprend... Enfin, maintenant, mon corps peut être visité par n'importe quel médecin. J'ai plus aucune peur de rien. Donc, on peut me coller des aiguilles, des machins, des trucs et des bidules. Aller visiter mon vagin autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de problème. Je n'ai plus aucun problème avec ces questions-là maintenant. J'ai été... martyrisé tant de fois le pauvre que voilà. Et du coup, bah, même avec le médecin qui s'est occupé du placenta, je finis par dire oh, à quoi ça ressemble. Puis elle m'a montré. Enfin, c'était marrant. Enfin, c'était curieux parce que.
Parce une que c'était. De se détacher,
oui, bah. Oui, mais en fait, moi, je pense que j'avais. Je pense vraiment que pour moi, ce qui était très important, c'était d'accompagner mon bébé. Après, dans la mesure où son cœur battait plus, où c'était fini, j'ai aussi ressenti ça avec les personnes que j'ai connues et aimées. Dès l'instant qu'elles étaient mortes, la vue d'un cadavre m'a jamais fait peur, enfin, m'a jamais dérangée et m'a toujours donné ce sentiment que ça n'est pas la personne, que la personne elle est partie et qu'elle est ailleurs et qu'on ne sait pas. Mais du coup, j'ai pas. Une fois que tout ce moment d'accompagnement pour moi a été fait, quelque part après, ça a été le moment aussi où moi je me suis. J'ai.
Voilà. Est-ce que tu penses que c'est à 4h du matin que vous vous êtes dit au revoir
Ouais, moi c'est l'impression que j'ai aussi, bien sûr. C'est ça que je me suis dit. Et. Enfin, on s'est dit au revoir. On s'est dit. Non, alors l'impression que j'ai, c'est on s'est dit coucou. C'est plus ça. Tu vois, moi, j'ai plus eu le sentiment de comme se prendre dans les bras, tu vois, d'une certaine manière. C'est comme se dire que c'était concret et qu'on était vraiment ensemble. Et voilà. Et puis, on a eu cette sage-femme incroyable qui était vraiment le genre de personne qui connaît. Qui sait les bons mots au bon moment, qu'est-ce que tu peux dire ou pas, et qui par chance ce jour-là n'était pas trop occupée, il n'y avait pas trop de naissances. Du coup, elle nous a raconté plein d'anecdotes. Et du coup, bah, tout ça, ça a enrobé quand même de douceur ce moment-là. Ça veut dire qu'on n'est pas resté centré sur notre chagrin, on a pensé à l'enfance, on a parlé de plein de choses, on a parlé que de choses liées à la maternité, bien sûr, mais du coup, c'était. Voilà, ça a été ça. Et puis, comme je me portais très très bien, l'anesthésie, donc du coup, le placenta, tout ça, ça s'est fait très vite. Du coup, tout s'est fait très vite. À 14h, je crois que tout était réglé. Et, pour ma santé. Et du coup, j'ai pu sortir le soir même. Donc, c'était super. À 5h, j'étais dehors. Et finalement. Voilà. Après, moi, je pense que j'ai eu ce truc de. Tu sais, quand tu passes. Quand tu passes un long moment comme concentré vraiment sur une chose unique, que cette chose est passée, il y a quelque part aussi une forme de soulagement. Tu vois, on était triste, mais on était vidé aussi, en fait. Mmh. Il y a ce truc de, oui, on est triste, on a du chagrin, mais on est complètement vidé. Donc, voilà, ça, on est rentré comme ça. Et alors, oui, il y a ça, il n'y a qu'à la maternité. La sage-femme nous a donné... nous a donné une petite boîte avec donc les photos du fœtus, parce que de toute façon, ils les prennent pour je sais plus quoi. Donc, visiblement, elle en fait de toute façon, qu'elle nous a remis sur une clé USB en nous disant, bah, elles sont là. On ne sait pas dans l'avenir ce dont vous avez besoin, mais si vous avez besoin de les regarder un jour, elles sont là. Vous pouvez aussi les jeter si vous êtes sûr de vous. Enfin, voilà. Donc, il y avait ça. Il y avait un livret d'accompagnement sur le deuil périnatal. Et il y a eu... alors ça avec David, ça nous a fait vraiment, vraiment sortir les grandes eaux. Et toujours maintenant, quand je le vois, en fait, il y avait le bracelet du bébé. Avec son, pas son nom, parce qu'on ne l'a pas prénommé. Enfin, à ce moment-là, on ne l'avait pas prénommé. C'est sûr que ça te brise le cœur de voir le bracelet de ton petit que tu ne connaîtras jamais. Et d'un autre côté, c'est ma cousine qui m'a dit ça après, qui est soigneuse, elle est thérapeute. Et elle m'a dit, mais en fait, ça, c'est pour créer de l'attachement, parce que pour faire du détachement, il faut qu'il y ait de l'attachement. Mmh. Et je pense que c'est vrai. Ça veut dire, je me rends vraiment compte que pour pouvoir vivre ça comme de manière non destructrice, ben finalement, ça a été toutes les choses qui ont pu ancrer notre chagrin de manière concrète. Ça veut dire, oui, bien sûr, qu'en fait, c'était bien de pleurer sur ce bracelet. C'était bien parce que c'était, c'était un symbole concret de ce qui venait de se passer et de cette étape de notre histoire. Parce que, ben, bien sûr que ça, on vivra toujours avec. Et moi, j'avais une très grosse crainte. Très, très grosse crainte. C'est que j'avais très peur, après cette interruption, j'avais peur d'oublier que j'étais plus enceinte. J'étais vraiment inquiète de devoir revivre les choses, tu vois, de revivre, ça y est, c'est fini, ah oui, non, c'est vrai que c'est fini. J'avais hyper peur de ça. Et c'est très marrant parce que mon corps, à l'instant où, à la materne, où je suis sortie de la maternité, j'ai dit à David, je lui ai dit c'est fou. Tout mon corps sent que je ne suis plus enceinte. C'était très surprenant. C'est vraiment, ça aussi, c'est des choses que j'ai trouvées étonnantes parce que bah, peut-être je ne me rendais pas compte à quel point on était deux tant qu'elle était là. Et puis, quand ça a été fini, j'ai aussi senti que vraiment c'était fini, quoi. Que c'était... Donc, bon, ça aussi, mais ça a été un soulagement, en fait, parce que vraiment, j'étais très, très inquiète de, voilà, de revivre sans fin les choses. Et finalement, je pense que d'avoir vécu tout ça de manière totale et très intense, bah, ça fait que oui, tu vois, j'ai la voix chevrotante en te racontant les choses, mais en vrai, ça va. Ça veut dire, ça va vraiment bien. Je pense que... Il y a eu, bah, là ça fait presque un mois que ça a eu lieu, et il y a eu l'autre, le dernier événement qui a été marquant, ça a été un soir où j'étais en train de lire, on était couchés avec David, on était chez en train de lire, et il y a eu un personnage d'un livre que je lisais qui s'appelait Alma, et ça faisait partie des prénoms qu'on avait dans notre liste, qu'on n'aurait sans doute pas donné d'ailleurs, mais qui était dans notre liste, et tout à coup ça m'a sauté aux yeux, j'ai fait oh, « c'est Alma ». Et puis du coup j'ai dit à David, est-ce que t'es d'accord pour qu'on se dise dans notre tête que voilà, si c'est Alma, parce que Alma c'est, en espagnol c'est l'âme, donc évidemment ça a un sens, enfin j'ai pas réalisé tout de suite, mais bon évidemment que c'est ça qui m'a fait penser. Et aussi Alma en latin, si je dis pas de bêtises, ça veut dire la respiration, le souffle, voilà, c'est quelque chose que je trouvais qui était beau, et puis voilà, ça c'est... Donc il y a eu ce truc-là quand même un mois après, alors que dans ma tête, un prénom, c'était quelque chose que tu donnais comme accueil à un être qui allait faire partie de la société. Et que donc c'était la manière qu'on avait de le reconnaître parmi ses semblables. Et donc je voyais pas du tout l'intérêt de ce geste-là pour moi. Et puis finalement, bah, ce soir-là, ça m'a paru... C'est ça. Donc il y a eu ça, mais je dirais que voilà, depuis un mois, en fait, la vie a repris vraiment, toute sa place normale. Ça veut dire que je me sens exactement comme bah, de nouveau la femme que j'étais, pas la femme que j'étais avant, mais être une femme qui voudrait avoir un enfant et qui fait tout ce qu'elle peut. Donc finalement, ça, c'est revenu dans ma vie comme quelque chose de normal, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvée dans le truc de... d'être submergée par la difficulté, par l'angoisse de et c'est encore pire maintenant, parce que je pense que j'ai plus en tête maintenant que bah ça a marché une fois, pourquoi ça marcherait pas une deuxième fois, que mon corps, vraiment, je me disais, il a tellement aimé cet état de grossesse que je me dis en moi-même, il veut que retourner là, quoi. C'était tellement bien que forcément il va tout faire pour re-accrocher un nouveau petit. Et puis et puis voilà, il y a ce truc de, bah oui, à la fois c'est difficile de remettre en route l'attente et l'incertitude et tout ça, et puis aussi les nouveaux éléments de, c'était tellement merveilleux que je me dis qu'il doit y avoir un gène en moi qui a grandi et qui s'est épanoui de, c'est ça que je veux, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui doit arriver, absolument, 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 c'est pour ça que je suis faite, donc il faut absolument que ça arrive. Et puis du coup, voilà, c'est quand même pas un retour en arrière, quoi, voilà, c'est pas un retour en arrière, c'est... Et puis voilà, maintenant j'ai aucun doute sur le fait que c'est un élément qui nous a transformés, même si je ne sais peut-être pas encore à quel point et comment et quelles seront les conséquences de ça. C'est sûr qu'aujourd'hui je me dis beaucoup, si je retombe enceinte, bah c'est sûr que ça ne va pas être l'insouciance dans laquelle on a vécu ces trois premiers mois cet été. Peut-être que je serai très angoissée, peut-être que je serai très inquiète, peut-être que j'aurai trop peur. Enfin, il y a des tas de questions qui se posent liées à ça, mais bon, bah ça, ma foi, déjà, si ça arrive, ce sera merveilleux, donc ce sera un autre chapitre, mais je trouve que... Voilà, je trouve que c'est quelque chose auquel on survit mieux que je n'aurais imaginé.
Pourquoi tu as souhaité témoigner aujourd'hui dans le tourbillon et même en parler sur ton blog ? Tu penses qu'il est important?
Alors, le truc de la... Il y a vraiment deux choses différentes quand même. C'est pour ça que c'était très long. Je pensais que la PMA d'un côté et l'interruption de grossesse de l'autre. La PMA, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'en parler? C'est parce que, en fait, je me suis rendue très vite compte. Moi, sur mon blog, j'ai toujours parlé des choses de ma vie et j'ai jamais eu de difficulté à le faire. Et j'ai surtout toujours trouvé que de parler des choses, soulageait toujours tout le monde. Ça veut dire un sujet tabou, n'importe lequel, si t'en parles, il y a des gens autour de toi qui vont me dire « Ah, ça me fait tellement bien de... » voilà. Et du coup, la PMA, en juillet, c'est curieux, c'est vraiment juste avant de tomber enceinte que je me suis dit « Oui, je vais en parler » parce que j'avais dû mentionner ça 2-3 fois sur Instagram et qu'à chaque fois, je recevais mais des dizaines, peut-être même des centaines de commentaires, de messages privés, de personnes qui me disaient soit qu'elles avaient vécu ça, soit qu'elles avaient peur de devoir le vivre, soit que tout ça. Et moi-même, finalement, même tous les deux, parce que David aussi bien que moi, chacun dans nos cercles, on s'est très vite rendu compte en fait que c'était tellement banal, quoi. Ça veut dire on vit quelque chose qui nous paraît à nous hallucinant et très dur et très solitaire parce qu'on a l'impression d'être seul au monde. Et en vrai, au moins un tiers des gens qu'on connaît vivent la même chose. Donc, du coup, il y a ce truc qui est quand même bizarre. Tu vois, tu crois que ce que tu vis est exceptionnel, puis au bout d'un moment, t'en parles, et puis tu te rends compte que franchement, le nombre de personnes autour de moi qui ont eu recours, ou qui ont envisagé, ou qui ont eu un recours, que ce soit bref ou pas, avec la PMA, mais c'est des personnes pas que de mon âge, hein, des femmes aussi beaucoup plus jeunes, ou des hommes, parce que là, il se trouve que le problème vient probablement plutôt de moi. Et encore, on ne sait pas. Donc voilà, mais des hommes, c'est hallucinant le nombre d'hommes qui souffrent de problèmes de fertilité aussi. Donc en fait, c'était juste ça. C'était mon but et a simplement été de me dire, ben, moi, qu'est-ce que je sais faire dans la vie, c'est écrire. Et il m'arrive cette histoire. Et qu'est-ce que la seule manière, c'est une manière de contribuer à peut-être à l'apaisement ou à, je sais pas, tu vois, à créer un endroit de... Moi, de partage, enfin, le fait de raconter, il y a aussi du coup les gens qui, elles, en retour, me racontent leurs histoires, et voilà. Et ça a été exactement la même chose avec l'interruption de grossesse, c'est que quand c'est arrivé, vraiment, alors pour le coup, ça a été le téléphone arabe de banc et de l'arrière-banc de la famille, des amis, tout ça. Et par exemple, les deux meilleures amies de maman qui ne m'appellent pas spécialement en règle générale, même si on est très proches, on ne s'appelle pas spécialement. Bah, par exemple, là, toutes les deux, elles m'ont expliqué que l'une, elle a perdu un bébé à 4 mois et l'autre à 7. Et puis que la fille de l'une avait eu un nigroma, son premier bébé avait un nigroma cervical et qu'il a dû avoir une interruption de grossesse. Enfin, finalement, j'ai appris autour de moi, mais que quasiment toutes les femmes que je connaissais avaient vécu au minimum une fausse couche. Et que je ne le savais, ma meilleure amie, qui est vraiment la personne au monde, en dehors de mon mari, dont je suis le plus proche, et qui avait vaguement mentionné qu'elle avait fait une fausse couche, mais en fait, je me suis rendu compte maintenant que, comme elle a deux enfants, elle a sans doute pas voulu me tenir au courant de ses malheurs en se disant que voilà. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais moi aussi, j'ai fait des fausses couches. Et il y a une fois, c'était une fausse couche, une fois, c'était une interruption de grossesse. Enfin, donc en fait, c'est quelque chose aussi qui est fréquent. Enfin, c'est pas pour paniquer les gens, mais qui est... En tout cas, qui est moins exceptionnel qu'on ne le pense. Et je pense qu'une des choses qu'on ressent en premier, quand ça nous tombe sur le coin de la figure, c'est qu'on est seul au monde et que personne vit ça et que personne pourra nous comprendre et qu'on va devoir traverser ça comme à l'aveugle dans un champ de mine. Et en fait, pas du tout. En fait, il y a plein de gens qui vivent ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis d'accord pour en parler. C'est que je crois vraiment que c'est très, très soulageant. Quand j'en ai parlé sur mon blog, j'ai eu pareil. Alors j'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages. Et je voyais bien que entre les personnes qui me répondaient, qui avaient vécu la même chose et moi, il se passait ce truc de. Il y a comme un soulagement mutuel. En fait, il y a comme quelque chose de. On n'est pas seul à partager notre histoire et du coup, on peut en parler aussi avec des gens qui ont vécu la même chose et qui. Du coup, vont exactement comprendre de quoi on veut parler. Je me rends compte que ça m'a aidé. Il y a notamment une femme qui est, alors je pense, le témoignage le plus bouleversant que j'ai pu recevoir, qui m'a raconté, elle, qu'elle avait donné naissance à une petite fille et qui avait une leucémie. Et que cette petite fille a vécu une dizaine de jours simplement et puis qu'elle a accompagné sa fille. Et c'était vraiment beau parce qu'elle racontait dans son message, elle me disait... Je ne peux pas en parler avec mon entourage vraiment parce que c'est trop dur pour eux en fait. Mmh. Et elle me disait, bon, en fait, il reste que l'amour, il reste que l'amour qu'on a eu en fait pour cet enfant et qu'on a même vécu jusqu'à son dernier instant. Et elle disait, moi, c'est ça qui me reste et c'est beau et je me sens en paix avec ça, et voilà. Et elle disait ça, ça m'a frappée, parce qu'elle disait, en fait, elle pouvait pas en parler, parce que pour les gens, c'était trop dur. Et moi, j'ai un peu ressenti ça aussi. Ça veut dire que, moi, je me suis évidemment en toute proportion gardée, hein, j'ai conscience que c'est pas, on n'a pas vécu la même histoire. Mais ce qu'elle voulait dire par je me sens en paix quand même avec ça, même s'il y a beaucoup d'émotionnel, je me sens en paix avec ça. Du coup, il y a ces choses-là que j'ai pu lire et qui m'ont fait un bien fou, quoi.
Merci beaucoup, Anne-Solange.
Voilà. Merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Anne-Solange, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 9 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.